La Mosaïque des Lexiques, revue vivante, a lieu le premier vendredi de chaque mois au laboratoire d'Aubervilliers. Elle propose de croiser les jargons, comparer les lexiques, les langues, multiplier les adresses. En bref, on y cause, traduit, danse, chante et fête chaque fois le mois nouveau. Vendredi 2 octobre 2020. Signes et signaux. Micro stéréo Audio Technica BP4025 et enregistreur Mix Précis. En déambulation dans les espaces des laboratoires d'Aubervilliers. Tom Johnson, qui émet des signaux sonores avec la composition Knock on Wood, interprétée par 5 membres du groupe Dédalus. Pierre-Stéphane Meuger, Amélie Berson, Thierry Madio, Cyprien Busolini et Fabrice Villard. Les interprètes circulent seuls, se répondent deux par deux ou jouent en tutti. Grande salle, vidéoprojection, une table au milieu de la scène. Micro devant la scène, à jardin. Tom Johnson, accompagné aux woodblocks par Fabrice Villard.
Thank you. soir, et de faire un peu de knock on wood, musique avec des groupes de voix. Ici, vous voyez huit cercles avec des notes. Il y a neuf notes dans chaque cercle. Et 18 plaques dans chaque cercle. Cercle, si on le dit en sens des aiguilles de montre, tac tac tac, pose, tac, pose, pose, tac, pose, tac, tac, pose, pose, tac, tac, pose, pose, pose. Ok. Si on lit les vides, tac, 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 pose, pose, tac, tac, pose, pose, tac, pose, tac, tac, pose, tac, pose, pose, pose. C'est-à-dire l'inverse, on a cette cercle. Et si on lit dans le sens contre les aiguilles de montre, on a cette cercle. Et ce rythme, dans cette cercle, est indépendant, mais c'est homométrique, ça veut dire que les distances entre les notes sont toujours pareilles.
Tom Johnson, Knock on Wood. Dans le hall, David Poulard, qui présente son travail de recherche sur les panneaux de signalisation en milieu urbain.
Voilà, bah j'ai essayé de ne pas être trop confus, j'ai pas l'habitude de parler dans ce contexte. Mais en même temps, ce dont j'ai envie de parler, c'est très confus, puisque c'est l'espace urbain, c'est la rue, c'est les signes qu'on trouve dans la rue. Donc peut-être que ça tombe bien que par moment je me perde dans ce que je vais vous dire. Là, pour répondre à cette invitation, j'ai décidé de chercher un peu, de réfléchir aux signes qui sont dans l'espace urbain. Ça, c'est quelque chose que je mène par ailleurs depuis assez longtemps. Moi, j'intéresse beaucoup aux choses proches de moi, à ce qui est banal, à ce qui est ordinaire, à ce qui est commun. Et je m'efforce de les regarder, de les collecter. Des fois, c'est autour de la langue, de la parole. Donc, avec un travail que je mène avec Guillaume Ranou, et vous avez peut-être vu des fois des tas de conjugaisons qu'on montre dans les mosaïques des lexiques. Ça a donné lieu à quelques livres qui sont là. Et je m'intéresse par ailleurs, moi j'ai une formation dessinateur de caractère typographique, et j'ai essayé de dessiner comme ça des typos, en tout cas de réfléchir au lettrage et au texte, notamment, qu'on trouve au quotidien, autour de nous, dans l'espace des rues, dans l'espace des villes. Alors, plutôt en France, parce que je voyage peu, et qu'il y a déjà beaucoup à regarder autour de nous. Je ne vais pas vous parler de tout, j'ai préféré me concentrer sur un objet d'étude, parce que dans la rue, il y a énormément de choses, c'est un millefeuille de petits détails qu'on peut observer, d'indices. Moi j'appelle ça des indices, des phénomènes, des signes de toutes sortes qui peuvent, sur lesquels on peut être amené à réfléchir et surtout à comprendre pas mal de nous-mêmes. Et donc ce soir, j'ai envie de vous parler de panneaux d'interaction de stationnés. J'aurais jamais pensé un jour parler de ça, mais c'est pas le signe qui graphiquement m'intéresse le plus, mais dans son usage, il est assez merveilleux. C'est sans doute le signe le plus présent. Je n'ai jamais eu de quantitatif de nombre de signes de panneaux d'interdiction stationnés. Mais ça doit être assez faramineux. Il a une histoire, hein, c'est résulte de toute la signalétique de la signalétique routière. Hein, ça remonte au début, depuis qu'il y a des voitures quasiment, assez vite, on a eu besoin de se doter de signaux, de signes, de règles. Pour pour gérer ces flux. C'est pas forcément l'État d'ailleurs au début qui les a fait, c'est plutôt des fédérations d'automobilistes. Et ensuite l'État a réglementé et a défini un code officiel. Donc en 28 apparaît ce signe graphique hein, qui est totalement abstrait hein, pour le coup. Un disque rouge ou un disque bleu, on ne sait pas trop, mais en tout cas il y a un disque bleu recouvert d'un rond rouge avec une barre qui vient le barrer à 45 degrés en descendant. C'est important. Il y a bien entendu toutes sortes d'autres panneaux routiers qui sont du même acabit, chacun avec ses signes. Certains sont figuratifs, d'autres pas. Et il y a le fameux panneau qui est le roi absolu, qui est le panneau qui vient interdire tous les autres, c'est-à-dire qui annule tous les autres. Plutôt, c'est la fin de l'interdiction de tout ce qu'après c'est détruit. C'est vraiment un signe que j'adore. Et donc, ces panneaux d'interdit de stationner, pareil, là je suis beaucoup sur Aubervilliers, dans toutes les rues que vous trouverez, et surtout ce qui est particulier, c'est qu'au fond, ils ne sont pas tous semblables. Certains sont posés par des particuliers, déjà il y a différents types d'émetteurs, ça peut être l'émetteur, un individu qui a ce garage qui souhaite pas qu'on regarde devant, et là on voit d'ailleurs un panneau pour le coup officiel, et donc qui réglemente le stationnement dans la rue elle-même. Et donc je m'intéresse de plus en plus en me baladant, ben voilà, je prends des photos de toutes sortes. Là, deux panneaux, d'ailleurs pas tout à fait orientés pareil, un plus récent que l'autre, sans doute. Là, il y a le panneau avant, ben là il y en a deux d'un coup, c'est-à-dire il y a deux barres, et là c'est vraiment interdit de stationner. Donc, là, ce signe correspond à l'enlèvement immédiat. Là, on a trois panneaux. Là, moi, c'est des questions que je pose, j'ai pas de certitude, mais pourquoi faut-il trois panneaux ? Alors, est-ce qu'on est mieux vu avec trois panneaux ? Sans doute, hein, parce que je ne pense pas que la personne aurait posé trois panneaux. Il croit vraiment, enfin, il y a un système de croyance qui pose ici. Peut-être qu'on pose trois panneaux, et un plus haut que les autres, peut-être. On essaye de s'en sortir avec ça. Hein. Ce n'est vraiment pas pour moquer, je pense qu'on est désemparé avec les signes, et je pense que beaucoup des constats qu'on peut faire dans la rue, c'est un rapport à comment on fait avec ce qui est censé être l'ordre, et comment on s'en sort avec l'ordre qu'on essaie de donner aux autres. Voilà, là il y en a quatre. Ce gars m'intéresse parce qu'il y en a un qui est peint sur la gauche, à même le mur, il y en a un qui est énorme au milieu, qui est un peu mal fagoté, mais et là, on commence une série de panneaux d'interdiction de stationner qui ne sont pas forcément bien orientés. Si vous avez bien remarqué, celui-là, il n'est pas dans le bon sens. Il aurait dû descendre. Et ça, c'est intéressant aussi de voir qu'au fond, ceci, on le connaît, mais avant moi d'y regarder de près, je ne me rappelais pas que c'était forcément le signe officiel descend. Peu importe, il marche quand même quand ça monte. Et donc après, on a voilà, des palimpsestes, des mille-feux, des missiles qui se superposent. Ça, je ne comprends pas. Et des fois, c'est très bavard. Ouais, là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour comprendre qu'il ne faut pas se garer. Et là, ça, c'est à Marseille. Voilà. Quand on n'a plus le choix d'un panneau de sens interdit, il y a beaucoup de problèmes de stationnement à Marseille. Et là, j'ai trouvé ça très beau. Enfin, tout d'un coup, cette personne qui dit « Je suis enceinte de 7 mois. Si vous avez un minimum de civisme et d'humanité, ne vous garez pas devant cette porte. » Mais ce qui m'intéresse, là, c'est l'adresse. Il y a quelqu'un, une personne, qui s'adresse à une autre personne. Et au fond, ça devient assez rare dans l'espace urbain. Donc, un substitut, je dirais, au panneau... panneau, c'est tout, également tout le mobilier, toutes les astuces, tous les objets qu'on vient créer pour empêcher des voitures d'aller se garer n'importe où. Et donc ça donne des objets, moi, qui m'intéressent de plus en plus. Donc, voilà, vous voyez que là, on est loin du langage graphique, en tout cas du code, du panneau, du texte. Et il y a également voilà, toutes sortes de dispositifs et d'occupation de l'espace, d'occupation du terrain pour empêcher la voiture de se garer. Là aussi, il y a des objets qui ont des formes étranges. Et en même temps, c'est à la fois banal et c'est très étrange quand on les regarde de près, comme une sorte d'éléphant. Il y a Voilà, l'addition aussi d'éléments qui m'intéressent, c'est la carotte plus le panneau qu'on fait à la main parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le choix, on le fait, et tant mieux. Et là, on est presque sur des anomalies, des créations mobilières urbaines qui vont tendre une chaîne, mais il n'y avait pas de poteau, donc comment tendre une chaîne devant la porte de garage quand on n'a pas de poteau, on invente, on soude. Alors là, effectivement, on n'est pas dans le coin, là, on est à Marseille également. Bonheur, cette ville. Il y a plein d'inventions de ce genre. Et ça dit quelque chose de la réappropriation des individus, de l'espace public par les individus également. Et donc je finirai un peu là-dessus. Les images que je vais vous montrer pour conclure, ce sont des anomalies. Parce que moi, je suis convaincu je suis convaincu par la puissance de l'anomalie. Et je pense que ça marche beaucoup mieux quand il y a un truc qui cloche de manière générale. Et les panneaux pliés comme ça, moi je trouve que déjà ça me trouve, alors je les regarde, donc si je les regarde, peut-être que j'ai une info. Bon. Donc là, le soleil fait son œuvre, le rouge et le bleu ont disparu, il n'y a presque plus rien. C'est des signes qui deviennent étonnants. Donc là aussi, c'est à Marseille, il y a un peu plus de soleil, mais le rouge a complètement disparu. L'usage d'un panneau comme un panneau d'affichage, parce que tout ça, c'est des restants d'autocollants qui ont été collés. Il y a beaucoup d'autocollants sur les panneaux, de plus en plus, soit en recto, soit en verso, soit les deux. Et là, le panneau sans interdit s'annule, parce qu'il y a toujours d'autres éléments. Et ça, ça fait plaisir aussi. Des panneaux ni au sol, ni à terre aussi. J'ai envie de finir sur cette année. Voilà. Je vais arrêter sur cette flèche tranquille.
Tom Johnson, Knock on Wood. Au loin. Nicolas Vargelis, qui envoie des signaux lumineux en activant les cimaises qu'il expose dans le hall.
Gilles Vers, can I have the control room light on, please?
Avec Émile Bacbonneau.
Oh, I want to see you illuminated. We can take the house lights out, please.
Choix des projecteurs allumés.
And François, can we have the work lights on, please? And Gildas, let's have stage lights on a 1 minute fade to zero, please.
Ajustement des projecteurs.
Okay, we're going to move the tower. Mieux.
Déplacement de l'échelle.
Are you in a good position, Emil, with the tower? ça va la position? Ok.
Déplacement dans la salle.
Stop and make sure all your shutters are pulled. I think you have a shutter right there, so on the opposite side. Okay, great. And can you drop in a color frame R54 special lavender, please?
Changement de couleur du projecteur.
Sharp focus, please. Sharp, okay. And are you zoomed in or zoomed out? You're all the way out? Okay. Let's bring in the top shutter a little bit. Okay, that's good. And the downstage shutter. Okay, and let's a little more. Okay, and let's have the upstage shutter. Okay, that's good. And the stage left shutter. Okay, great. Okay, now let's actually the R54 is not working, so pull the color out, please. Okay, and let's go with R36 medium pink. Great. And let's go to a soft focus, please. Are you all the way? Okay, great. Okay, let's call that good, and Emile, you can come down. Gildas, we have light channels 1 through 7 at full, please. Okay, and let's see, medium pink special. What channel is it in?
48.
48, okay. Let's have 48 at 0, please. Okay, Gildas, we're going to do a quick channel check. So let's add to this channels 7 through 10 at full, please. Okay, great. And let's see, take all this out at zero, please. Eleven full. Okay. Let's see. Let's add to this 12, 14, 16 at full. Okay. Let's have 11 at 50%. Okay, now let's have 29, 39, and 40 at full, please. Are you, do you have all three up? 29, 39, and 40. Great. Let's see, and let's have channel 32 at 20%. And let's have channel 38 at 20%. Take the last slide out. Okay, great. Let's have 44 at 50%, please. At full. Okay, great. Okay, and let's have 48 at full, please.
Tom Johnson, Knock on Wood. Sur la mezzanine. Antoine Poncé, qui raconte un signe du ciel.
D'accord. Alors, voilà, je voudrais vous parler d'un film qui s'appelle L'effet papillon, CQFD. C'est une histoire longue qui commence en 2012. Alors que je prenais part à un voyage d'études dans le nord du Japon, au Tohoku. Juillet 2012, c'est donc un an et demi après le tsunami de 2011. Et le but de ce voyage était d'étudier, de documenter la mise en place des mécanismes mémoriaux, des lieux de mémoire, les lieux de mémoire officiels et puis ceux plus spontanés, plus vernaculaires, plus personnels. Et donc, on se promenait dans le dévasté deux fois, puisqu'il avait été une première fois par la vague, par le tsunami, puis une deuxième fois par les bulldozers. Et les villages étaient réduits à être des cadastres, puisqu'il n'y avait plus de maisons, il n'y avait plus que les traces des maisons et des petits murets. Et de temps en temps, on croisait des survivants qui venaient dans leur maison, dans leur ancienne maison, dans leur maison rasée. De temps en temps, sur ces maisons étaient posés des portraits, des photographies avec les noms qui étaient calligraphiés, qui formaient comme ça des petits hôtels, des petits lieux de mémoire. Parfois, il y avait des choses beaucoup plus spectaculaires, comme la Kaminaichi, une espèce de gros cargo qui avait été transporté de plusieurs kilomètres dans les terres, parfois un pain qui, énorme, avait survécu à la vague et qui rassemblait aussi là des des gens qui venaient le voir parce qu'ils l'avaient vu en photographie dans les magazines, dans les journaux télévisés. Mais au long de ces déambulations, ce qui m'a le plus marqué, c'était les fleurs qui poussaient dans ces maisons, les fleurs sauvages. Fleurs qui me semblaient ne pas être des témoins directs comme ceux dont je viens de parler, mais des exemples de ce qui se passait maintenant, de ce qui poussait dans ces maisons. Et j'étais assez ému par ces fleurs. Et puis le projet de faire un herbier à Fleury, j'ai envie de dire. Mais faire un herbier, ça se prépare. Or, je devais improviser là. Et il n'y avait rien pour faire un herbier. À 100 km à la ronde, dans cette lande dévastée et fertile, il y avait une station-service. Dans cette station-service, j'ai trouvé un cahier et du scotch d'écolier. Aussi, j'ai commencé à constituer un herbier en cueillant ces fleurs. Voyage a continué. Chaque soir, je collais les fleurs dans les pages de ce cahier. Et puis, quelques semaines plus tard, de retour en France, j'ai laissé décanter tout ce matériel, cet herbier. Ce n'est qu'après ce temps de décantation que j'ai repris ce dossier-là en main, j'ai envie de dire, et j'ai ouvert l'affaire et ouvert les herbiers pour constater que ce n'était pas du tout des herbiers, c'était des pourrissoirs, puisqu'ils avaient décomposé un peu en improvisation, les fleurs étaient en train de pourrir. Il y avait là une sorte de catastrophe, de petite catastrophe, un petit peu comme si, pour témoigner, pour montrer une grande catastrophe, finalement une petite catastrophe était peut-être plus adaptée, était peut-être plus une histoire de non pas de relique, de choses comme ça, mais une réplique. Et ainsi je changeais de statut, je n'étais plus quelqu'un qui venait constater quelque chose, mais je prenais part à une réplique de cette catastrophe à travers cet herbier qui est en train de pourrir, ce pourrissoir. L'idée alors de le conserver, d'essayer de le protéger, de le sécher et puis de le photographier est arrivée. C'était au mois de septembre, au mois de fin septembre. Il faisait beau, j'ouvrais la fenêtre, j'ai commencé à le mettre au soleil pour le faire sécher. Et puis là, j'ai commencé à le photographier. Et les premiers résultats, les premières photographies étaient impressionnantes parce que ces fleurs qui étaient en train de pourrir, il faut bien imaginer que quand on décollait les pages de cet herbier, on arrachait la moitié des pétales qui étaient en train de pourrir, ou alors une tige avait tiré comme une contre-épreuve sur la page d'en face, il y avait des taches de moisissure un peu partout, enfin c'était vraiment une confusion terrible, mais j'ai continué à essayer de garder une trace de ça et à le photographier, et puis j'étais content des résultats. Alors, je me suis retrouvé au mois d'octobre, comme ça, à faire des photos chaque jour, des pages, etc. Un jour, un papillon est rentré dans l'atelier. Il arrive, il collecte, il se promène un petit peu et il se pose sur l'herbier. Waouh ! Là, je suis un peu étonné. Surtout que le papillon reste. Il est bien sur sa fleur. Oui, là, il se promène et suffit. Je m'approche, je prends la caméra et je commence à le filmer. Il continue, il se promène. Je tourne la page, il change de fleur, il se promène. Et puis à un moment, il ferme ses ailes et s'envole et s'en va. Je vais face à mon ordinateur pour charger les rushs que je venais de faire et consulter ces images, et là, je suis étonné. Étant étonné, je regarde de rechef ces images, ces rushs, et me dis que finalement, un tsunami au Japon peut déclencher un battement d'ailes à Paris, enfin en France. Et puis, plus compliqué que ça. ça? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Enfin, est-ce que c'est un retour d'expérience? Est-ce que c'est... Je n'ai pas d'échelle pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à Rémy? Je ne sais pas, je suis un peu quoi? Je prends le temps d'essayer de prendre des notes, de dessiner, mais je suis vraiment étonné par ce qui vient de se passer, assez touché. Et toujours scotché à mon tour devant l'écran, quand tout à coup de théâtre, le papillon revient. Ah bon? Il revient, il refait le tour de l'atelier, il volette, il se pose sur ma main droite. Là, je sens que ça me chatouille un petit peu, c'est marrant, mais je suis quand même vraiment bousculé, quoi. Enfin, quelque chose se passe. Enfin, je n'en sais rien d'ailleurs. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe. Et, là, tout se passe un petit peu comme si je sentais les pressions de la patte du papillon sur ma main et qu'il y avait une injonction. Comme, alors, le mot qui me venait à l'esprit, c'était la transe. Transe au papillon, la main au papillon et les pressions de la main du papillon vont m'indiquer ce que je dois faire avec mon crayon. Et là, je commence à dessiner. Comme j'avais entendu dire qu'en France on fermait les yeux, je ferme les yeux et je dessine mon papillon dans un état très border, limite. Et puis je triche un petit peu pour voir ce qui se passe. Et là je vois que je viens de dessiner un papillon. Le papillon, lui, descend de ma main, va sur le papillon, le dessin de papillon, je veux dire, c'est confus moi aussi, mais c'est comme ça, quoi. Et le papillon sur son dessin, enfin sur le dessin, en tout cas, ferme ses ailes et s'en va. Voilà. Après, je suis parti, enfin, j'ai été prendre l'air, j'ai été marcher un petit peu. Je suis rentré chez moi, j'ai pris le film, j'ai pris les photos de fleurs. J'ai mis tout ça, il n'y a pas des photos de fleurs, donc j'ai continué pendant une semaine à finir de photographier l'herbier. Quand j'ai fini ce travail-là, je n'avais pas beaucoup parlé de cette histoire des papillons, voire pas du tout. J'ai mis ça sur une clé USB que j'ai rangée. Quand j'ai présenté le travail sur le tsunami, sur les lieux de mémoire à l'Inalco, je n'ai pas parlé de papillons. La vidéo, je ne l'ai pas montrée. Et ça, c'était en 2012, donc. Voilà, on se retrouve en décembre 2019. Et un soir, une nuit plutôt, je rêve à ce papillon. Alors le lendemain, j'ai fait le petit film que je vais vous montrer.
Yes. Yes.
Tom Johnson, Knock on Wood. Dans les bureaux. Nelly Morel, qui propose un exercice sur les signes graphiques et typographiques.
Puissance.
représentation du furet est plus précise que la représentation de l'intellect, qui est ici l'image d'un cerveau, d'un organe anatomique, la garniture d'une tête, l'intérieur d'un crâne, que nous acceptons comme le lieu de la pensée et des idées, alors que le furet reste le furet. Cependant, le fait de les juxtaposer nous fait prendre le chemin de la confusion. Si la confusion est source d'erreur, elle est aussi source de créativité. On est en droit à présent de se demander comment des mots qui nomment à la fois des réalités concrètes et des abstractions piochent dans les mêmes lettres. Alors, dans la tentation excessive de tout comprendre, il y a forcément un os. Et il y a sans doute même plusieurs os. Et ces os forment le squelette de notre compréhension. Donc ce squelette de notre compréhension, c'est l'alphabet. Alors quand on pioche quelques lettres au hasard, on peut essayer de former des mots. Donc avec celle-là, on peut faire singe, signe, Jean, Saint, et on peut aussi écrire Jin Sangé. Et pourtant, Singé, signé, signalé, Jean, n'ont pas beaucoup de rapports. Alors, si on ajoute une lettre, on arrive à dessin et à design. Alors, en parlant de design, on peut prendre une forme basique, c'est un cercle, c'est une forme conceptuelle parfaite, qui n'existe pas dans la nature, mais qui se conçoit grâce à l'invention d'un outil très puissant, pas con, le compas, qui permet de révéler tous les points éloignés de la même distance d'un seul point. Et personne n'est gêné a priori qu'un cercle puisse paraître semblable à un autre, bien que le premier puisse être une entrée et l'autre une sortie. Et donc voici le tube. Et le tube avec les mêmes qualités, d'autres proportions, une autre échelle et d'autres quantités, devient assez rapidement un plat de coquillettes. C'est une réalité. Notre perception n'est qu'une des qualités de cette réalité. Je répète, notre perception est une des qualités de la réalité. Et nous n'avons comme ça aucun mal à passer d'un cercle plat à un plat de la cantine. Alors, est-ce que d'autres choses peuvent arriver avec des formes rectilignes? Qu'est-ce que cette forme à quatre côtés, autrement dit ce quadrilatère? Ce n'est ni un rectangle, ni un carré, c'est un parallélogramme avec des angles qui sont égaux deux à deux. Autrement dit, c'est un losange. Mais c'est un carreau, et même la carotte stylisée d'un bureau de tabac, une cravate, la face d'un dé, l'aiguille qui nous fait perdre la boussole en opposant systématiquement le nord au sud et l'est à l'ouest. Enfin, il existe pourtant une ville dont je tairai le nom, qui a une toute autre conception. Alors, mais où allons-nous? Justement, on appelle le syllabe un ensemble de lettres qui se prononcent d'une seule émission de voix. Alors, tout ne porte pas du sens. Fleck, tur, nix, ou crâne, et j'en passe. Mais il en est une qui porte beaucoup de sens. Et avec elle, nous allons vers de poésie, nous allons vers de terre, nous allons vers ceci, nous allons vers cela. vecteur qui rampe à travers les mots. Par exemple, on peut avoir versatile, traverser, adversaire, diversion, réversible, université, versus, bouleversé, anniversaire. Et regardons à présent comment une illustration peut tromper notre jugement face à l'angoisse de ne pas deviner ni comprendre ce qu'on attend de nous. Nous interprétons à grande vitesse et avant de connaître la finalité ou d'avoir vu l'image complète. Ici, je vous demande de deviner les lettres qui manquent pour former une phrase cohérente. J'ai un calisson. J'ai un cerveau. J'ai une écharpe. Il faut donc supposer que ce qu'on attend de nous, notre devoir, c'est d'avoir le sens du doute. On refait un exercice. C'est donc un cercle, un porte-clé ou une boule, c'est un bouton, un personnage très mignon, c'est un lapin, c'est un furet. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance de furlecte. Je termine par une question. Aimeriez-vous vivre dans un pays arriéré mental?
Tom Johnson, Knock on Wood. Dans le jardin. Roméo Agide, qui déchiffre avec la complicité de Marie Hort la partition notée d'une chorégraphie.
Bonsoir, et merci pour l'invitation. J'ai été invité de Marie Hort, c'est moi-même Roméo. On a été invité à juste exposer très brièvement, rassurez-vous, les enjeux d'un système qui concerne en fait la possibilité de transcrire, de noter le mouvement. C'est un système qui a été inventé dans les années 20 par un monsieur qui s'appelle Rudolf Laval, qui s'appelle la cinétographie. L'enjeu ici, c'est de vous en présenter en 3 minutes la totalité. Et non, évidemment pas du tout, juste l'essentiel. Et après, vous proposez simplement de décortiquer un petit extrait d'une partition en particulier, un micro-extrait qui sera tiré de la chorégraphie de Carole Armitage pour Madonna dans Vogue. Voilà, donc le système de la bannière repose sur un ensemble de signes abstraits qui correspond bien à cette époque aussi. Le cercle pour le corps est l'idée. Le cercle rempli est teinté de noir pour l'idée de centre en rapport avec la gravité. Le losange pour l'espace. Et le carré pour le lieu. Alors évidemment, c'est des signes qui sont décidés comme ça, un peu abstraits. Mais c'est à partir de ces quatre symboles qu'en fait il va pouvoir décliner toute une série de pensées pour transcrire le mouvement, particulièrement le mouvement de corps, puisque son système va dans un premier temps être pensé pour la danse. Mais pour revenir à Madonna, parce que c'est pour ça que. Voilà, donc toutes les bases du système en 1 minute 30 temps chrono. Il y a une idée de portée, puisqu'il y a une idée de temps, le mouvement s'inscrivant dans un espace et dans la durée, sur la tradition de la portée musicale, qui cette fois va se lire non pas de gauche à droite, mais de bas en haut. La portée, on appelle cinétogramme, ici. Voilà, ça c'est la base. Cette portée, elle vient se lire avec cette idée que de part et d'autre de la ligne médiane s'organise pour nous, lecteurs, parce que c'est quelque chose qui s'adresse vraiment au regard, qui se lit sur, pareil, sur les mêmes principes que la lecture musicale, avec l'idée qu'à droite de la ligne médiane, ça va concerner la partie droite de notre corps et à gauche la partie gauche. D'autre part, à l'intérieur de cette portée vont apparaître des signes, et ces signes vont être placés à des endroits de la portée. Et c'est la place du signe, pardon, j'avais que ça fait des surgissements comme ça, c'est la place du signe qui indique la partie du corps qui est en mouvement. Donc au départ, en fait, l'idée est assez simple. Quelque chose va se lire de bas en haut, des signes vont apparaître, et selon la place qu'ils occupent, vous saurez ce qui doit bouger. Alors c'est un système qui peut être très global, très général, qui peut devenir extrêmement rigoureux et précis, voire sectaire. Mais ça c'est une autre histoire, on n'est pas tous les mêmes notateurs. Il y a des conflits internes dont je parlerai dans un autre jour, un peu plus potin. Donc tout ce qui est collé à la ligne médiane de la portée concerne les appuis. C'est marrant parce que le système part quand même du principe qu'on est plutôt debout, ce qui n'est pas non plus évident. Ensuite, ce qui va être collé à la membrane interne, ça va concerner, donc j'ai mal placé les jambes, en fait, ici, je me rends compte, mais bon, c'est pas grave. Vous concernez les gestes de jambes libres, celles qui ne sont pas en appui, on peut faire ce qu'on peut avec dans les ailes. Et surtout, là, ce qui va nous intéresser dans l'exemple de Madonna, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la chorégraphie de Vogue, mais il y a beaucoup de bras. Vous allez avoir beaucoup de signes, non pas collés à l'extérieur sur la membrane, mais un peu détachés, et ça, c'est la colonne des bras. Jusqu'ici, tout va bien. Quelques signes de direction que je vous montre comme ça, mais le but, c'est pas de toute façon de faire un point, c'est juste de vous montrer. Alors, vous voyez qu'il décline le signe de direction à partir du rectangle, qui est lui-même décliné du carré, ce qui renvoie donc à l'idée de l'espace et de lieu. Et en fait, en intervenant sur ce signe, il arrive à retrouver en fait des directions qui forment un plan. Je sais pas si vous voyez les jeux de Japon, des jeux de danse avec les flèches au sol. C'est un peu le même principe, c'est un plan. Et de ces plans, à partir desquels on peut déterminer un avant, un arrière, des obliques et des côtés, il va donner des niveaux par un système de coloration, noir pour le bas, un point au milieu pour le niveau moyen et l'achevé vers le haut pour le niveau. Il y a donc 27 directions. Voilà, on voit tout de suite, vous voyez, c'est un graphique qu'on identifie assez rapidement. Donc c'est une formation très joyeuse et aussi très douloureuse. Ça j'adore, je l'ai tiré du cahier de Anne Hutchinson Guest, qui est une version, enfin il y a eu une grosse dispute entre la version du système allemand et la version américaine. Et Anne Hutchinson est partie aux États-Unis développer ce qui va s'appeler la lab annotation, donc la cinétographie et la lab annotation, ils se détestent un peu, mais en gros c'est pareil en fait. Et voilà, et ça c'est dans le manuel de Hutchinson. Donc c'est des signes de corps, donc quand on voit un petit trait avec 4 traits, ça va concerner la main, 2 ça va concerner le coude, etc. Donc ça c'est un langage de forme. Alors pour rentrer dans le fait du mouvement, ici vous avez donc une portée comme convenu, on va s'en fiche un peu de tout ça. Des appuis, je ne vais pas vous en parler. Par contre, voilà, on peut juste déjà se dire entre nous que quelque chose à gauche se passe, vous voyez, comme je vous disais, détaché de la portée vers l'extérieur. Un bras gauche va aller en avant du moyen. Et ça, c'est le petit signe de paume. J'aime bien ce signe, vous fait rire. Et cette paume doit également aller vers l'avant.
Mouvement de bras.
Puis vers la main droite qui va aller en avant du moyen. Avec la paume en avant du moyen. C'est hyper facile en fait. Et très joyeux. Ensuite, peut-être ton avant-bras gauche va aller du côté droit niveau moyen. Côté droit niveau moyen. Ton avant-bras gauche va aller du côté droit niveau moyen.
Déchiffrage de la chorégraphie.
Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on commence à discuter. Je te laisse le lire en fait, parce que je pense que je... Voilà. Avec la paume qui cette fois va vers le bas. Et il va se passer, vous voyez, quelque chose de symétrique au niveau du bras droit. Bref, je pourrais développer comme ça, mais je pense que je vais vous perdre. Et c'est pas le but. Ce système de notation, globalement, en fait, c'est un système assez puissant, bien que, comment dirais-je, un peu austère en apparence dans sa manière de s'appliquer, une modélisation un peu abstraite, et de s'incarner en fait dans quelque chose. Et du coup, on arrive quand même à des niveaux de précision que bah, nous, en tout cas dans notre laboratoire informel, Marie, Sophie et moi-même, on développe sur des formes qui n'ont pas l'habitude d'être étudiées par la tradition du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. Donc ça peut être des formes pop, ça peut être des râteaux laveurs. Voilà, bon, évidemment, on n'est pas les seuls à étudier des choses bizarres. Voilà, et pour terminer, je vais juste vous montrer. Donc voilà, ça c'est le passage du refrain de Vogue. Ici, vous avez nommé Sinclair qui a beaucoup de bras, comme vous pouvez le voir. Elle ne bouge pas beaucoup les pieds. Et d'ailleurs, elle va continuer à ne pas trop bouger les pieds, elle a beaucoup bougé les bras, comme vous allez pouvoir le voir. Et dans la suite, bon, ça je ne l'ai pas mis, parce qu'elle va aller au sol, mais je me suis trompé en le temps, donc je ne l'ai pas mis. Ah, si, juste celle-là. Après, je crois que je prends 30 secondes pour ça. Et du coup, juste ici, celle-là, c'est celle qui m'intéresse. Reviens, oui. C'est celle-là qui va m'intéresser. Donc, cette posture que Marie va juste vous montrer, comme ça, vous faites une idée. Donc là, on est dans une organisation qui est très naturelle, comme vous pouvez constater, et qui est relativement célèbre, en fait, puisque c'est la posture, j'en parle, de Madonna, quand elle s'est appropriée, en fait, ce style de danse pour en faire quelque chose de beaucoup plus chic, en fait, pour le pulvériser un peu culturellement, soyons honnêtes. Et du coup, il s'organise quelque chose, vous voyez, avec beaucoup d'indications au niveau des bras, mais aussi des avant-bras, des mains, même du pouce, qui doit s'écarter vers le haut. Et ces arcs-là indiquent des contacts qui disent que, ben voilà, par exemple, le bras, quelque chose de la main droite va toucher à l'avant de la tête au niveau du menton, et quelque chose de la main gauche va toucher au niveau du front. Voilà, on peut aller très loin, on peut noter les grimaces, on peut noter la respiration, on peut noter les indigestions aussi. Mais on est un peu libre là-dedans. Donc ça, c'est la posture que vous venez de voir, qui était un peu mieux réalisée par Marie, d'ailleurs.
Et juste pour terminer...
Démonstration dansée. Tom Johnson, Knock on Wood, Tutti.